universel. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable. Vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le monde aujourd'hui, Chérubin Dorcil et Bagassi Koura à Washington. Bienvenue à l'écoute de VOA Afrique. Les grands points de l'actualité.
Today, the United States of America is changing its relationship with the people of Cuba.
Les présidents Barack Obama et Raúl Castro annoncent un rapprochement historique dans les relations entre les États-Unis et Cuba.
Nous aurons l'essentiel de la déclaration de M. Obama et les points de vue d'un analyste à Miami, passion de la communauté cubano-américaine.
Ebola et insécurité alimentaire, l'ONU avertit que plus d'un million de personnes sont menacées dans les pays les plus touchés par l'épidémie.
Malgré la menace d'un veto américain, les Palestiniens comptent proposer au Conseil de sécurité une résolution réclamant la fin de l'occupation israélienne.
République démocratique du Congo, début du rapatriement des ex-rebelles du M23.
Il y a une tentative de manipulation de ces jeunes gens. Quand ils sont congolais, ils n'ont qu'une seule envie, c'est de retourner dans leur pays. Je ne dis pas le contraire.
Et nous aurons notre page économique, les sports et la musique, mais d'abord, le journal.
C'est l'actualité du jour. Hein. Le président américain Barack Obama et son homologue cubain Raúl Castro ont confirmé aujourd'hui ce que les observateurs considèrent comme un rapprochement historique entre les États-Unis et Cuba. Et cet important développement intervient après la libération d'un contractuel américain, Alan Gross, détenu depuis 5 ans à la Havane. Lionel Gaïma fait le point.
Nous écouterons ce reportage d'ici un instant et il faut dire qu'il y a eu pas mal de réactions après le discours du président Barack Obama, notamment dans le camp républicain au Congrès. Le sénateur Marco Rubio a estimé que c'est une très mauvaise décision. On écoute Lionel Gaïma.
Today, the United States of America is changing its relationship with the people of Cuba. In the most significant changes in our policy in more than 50 years.
Prenant la parole ce mercredi à la Maison-Blanche, le chef de l'exécutif américain a rappelé que les mesures rigides prises à l'encontre de Cuba, depuis plus d'un demi-siècle, n'ont pas fondamentalement changé les réalités politiques sur l'île. L'embargo n'a tout simplement pas eu l'effet escompté et Barack Obama veut normaliser les relations américano-cubaines.
J'ai instructé Secrétaire Kerry de immédiatement commencer des discussions avec Cuba pour rétablir les diplomatiques relations qui ont été séparées depuis janvier 1961.
Le président Obama dit qu'il a demandé au secrétaire d'État John Kerry d'entamer immédiatement des discussions sur la normalisation des relations diplomatiques avec la Havane. Il y aura également une révision quant à la désignation de Cuba comme une nation terroriste. Les voyages entre les deux pays seront désormais plus faciles. Et M. Obama souhaite voir une coopération dans le domaine de la santé, notamment dans la lutte contre l'épidémie d'Ebola en Afrique de l'Ouest. Le président américain a toutefois souligné que son gouvernement n'abandonnera pas ses positions sur les questions de démocratie et de droits humains, deux points soulevés par les critiques de cette normalisation. Alors que Barack Obama annonçait ce changement dans la politique américaine vis-à-vis de l'unique île communiste de la Caraïbe, son homologue Raúl Castro s'adressait au peuple cubain, disant, entre autres, qu'il était temps de laisser derrière nous l'héritage de la colonisation et du communisme. M. Obama et Castro s'étaient entretenus par téléphone mardi, mais Fidel Castro, le leader emblématique de la révolution cubaine et grand frère de l'actuel président, n'a pas pris part aux discussions, a déclaré un responsable cité par l'AFP. A signalé que le pape François a joué un rôle crucial dans le rapprochement entre les deux pays, ce pour lequel les deux leaders l'ont remercié. Les États-Unis et Cuba, qui séparaient seulement par les 150 km du détroit de Floride, n'ont plus de relations diplomatiques officielles depuis 1961. Vivement critiqué à Cuba, l'embargo américain maintenu depuis 1962 est condamné chaque année aux Nations Unies à une écrasante majorité.
Sur ce rapprochement historique entre les États-Unis et Cuba, nous aurons les points de vue d'un analyste dans la partie magazine de cette édition.
Plus d'un million de personnes pourraient faire face à l'insécurité alimentaire en Guinée, au Libéria et en Sierra Leone d'ici mars 2015, dû à l'épidémie d'Ebola, ont averti des responsables de la FAO. Dans une déclaration publiée ce mercredi, ils citent la fermeture des frontières, les mesures de quarantaine, l'interdiction de chasser et d'autres restrictions comme étant des facteurs empêchant l'accès aux sources alimentaires. Par ailleurs, les autorités sierra-léonaises ont lancé aujourd'hui une campagne de porte-à-porte à la recherche de personnes atteintes d'Ebola.
Un millier d'ex-combattants du M23 ayant fui mardi les baraquements ougandais où ils étaient cantonnés depuis novembre 2013 se trouvent dans un camp de réfugiés proche, information émanant de l'AFP qui cite l'armée ougandaise. Ces ex-rebelles se sont évanouis mardi dans la nature après s'être opposés à une opération de rapatriement vers la RDC.
Et puis, on revient ce soir sur cette crise au sein du parti, du principal parti d'opposition. La justice a débouté aujourd'hui les pro-Gbagbo représentés par Dano Diédié dans le procès contre le président actuel du Front populaire ivoirien, Affine Guessin. Les pro-Gbagbo tentaient de faire annuler le report du 4e congrès ordinaire décidé la semaine dernière par la justice Jean-Roger Billon.
La justice ivoirienne reste sur sa décision concernant le congrès du FPI, à savoir que celui-ci reste reporté jusqu'à nouvel ordre. Le tribunal avait ordonné la semaine dernière le report à une date ultérieure de ce congrès à la demande du président du parti, Pascal Affine Guessin. Dano Diédié est président de ce 4e congrès ordinaire, initialement prévu du 11 au 14 décembre dernier, a déposé un recours, mais en vain. Le sujet déchaîne les passions au sein du Front populaire ivoirien. Laurent Gbagbo, actuellement en détention à La Haye, et Pascal Affine Guessin brigue la présidence de l'ancien parti au pouvoir. Depuis la validation des candidatures de messieurs Gbagbo et Affi par le comité de contrôle du parti, la tension est montée d'un cran entre les deux camps. Le bras de fer judiciaire est pour le moment en faveur des pro-Affi, mais nul ne peut prédire jusqu'où iront les deux tendances politiques du principal parti d'opposition ivoirien. Les observateurs craignent une implosion du FPI.
Un nouveau Premier ministre a été nommé aujourd'hui en Somalie. Omar Abdirachid Ali Chamarké avait déjà occupé cette fonction en 2009-2010. Il est le troisième Premier ministre en 2 ans dans ce pays toujours en proie aux insurgés islamistes Shebab. Cette nomination doit être approuvée par le Parlement somalien.
La ministre des Finances du Nigeria a revu ce mercredi à la baisse les prévisions de croissance pour 2015 et proposé une réduction des dépenses. La première économie africaine tentant de faire face à la chute mondiale des prix du pétrole.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Au Pakistan, les autorités prennent des mesures pour répondre à l'attaque perpétrée hier par les talibans contre une école de Peshawar, alors que la nation observe un deuil national de 3 jours pour les 132 enfants et membres du personnel tués dans cette tragédie. Michel Joseph.
Le Premier ministre Nawaz Sharif a approuvé aujourd'hui la levée du moratoire sur la peine de mort dans les cas de terrorisme. Ce moratoire était en vigueur depuis 2008. Monsieur Sharif s'est également engagé lors d'une conférence de presse à Peshawar à poursuivre l'offensive contre les militants islamistes dans la région tribale du Nord-Ouest, près de la frontière afghane. Le Premier ministre a déclaré en substance que son gouvernement continuera à les traquer tant qu'il y aura un seul terroriste sur le sol pakistanais. Il s'est félicité de la réunion qui a permis aux différents partis politiques de se retrouver derrière le même programme de lutte contre le terrorisme. Les journalistes qui ont pu entrer dans l'école attaquée ont vu des murs criblés de balles et le sol souillé de sang. Les talibans pakistanais disent que cette attaque était en représailles à l'offensive de l'armée pakistanaise contre eux. A signaler que les chefs de l'armée et des services de renseignement pakistanais ont rencontré aujourd'hui à Kaboul le président afghan Ashraf Ghani et le général américain John Campbell, commandant des forces de l'OTAN en Afghanistan.
Les Palestiniens comptent proposer ce mercredi au Conseil de sécurité des Nations Unies une résolution réclamant la fin de l'occupation israélienne. Mais les États-Unis les menacent d'un veto, Idriss Fall.
Nimr Hamad, conseiller du président Mahmoud Abbas, a confirmé que ce projet qui sera déposé devant le Conseil de sécurité incorpore des modifications suggérées par la France, sans préciser lesquelles. Contrairement à la proposition jordanienne qui donnait 6 mois, Paris préconise un délai de 2 ans pour boucler de nouvelles négociations directes entre Israéliens et Palestiniens. Et il faudra quelques jours avant un éventuel vote. Un veto américain est quasi certain. John Kerry a toujours réitéré qu'un accord de paix ne peut résulter d'une initiative unilatérale à l'ONU. De son côté, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a rejeté tout ultimatum et a accusé les Européens d'avoir pris fait et cause pour les Palestiniens. Comme pour lui apporter la réplique, le tribunal de l'Union européenne retire le Hamas de la liste des organisations terroristes et le Parlement européen apporte son soutien de principe à la reconnaissance de l'État palestinien.
La première du film The Interview a été annulée ce mercredi suite à de nouvelles menaces terroristes proférées par les hackers de Sony Pictures. Cette parodie hollywoodienne qui porte la griffe des acteurs Seth Rogen et James Franco raconte l'histoire de deux médiocres journalistes américains chargés d'assassiner le leader nord-coréen Kim Jong-un, Jacques Aristide.
Ce qui apparaissait comme une comédie burlesque au départ prend désormais des proportions alarmantes. Les pirates informatiques, se réclamant du groupe Les Gardiens de la Paix, ont menacé d'attentat les salles de cinéma qui projetteraient le long métrage, faisant allusion à l'effondrement des tours jumelles du World Trade Center le 11 septembre 2001. Par mesure de sécurité, Landmark Theatres a décidé d'annuler l'avant-première à New York. De son côté, le département américain de la sécurité intérieure a indiqué que la crédibilité de ces déclarations était à l'étude, mais que pour l'heure, il n'y avait pas de données prouvant un complot actif contre des salles de cinéma sur le territoire des États-Unis. Les mêmes hackers avaient affirmé avoir piraté le système informatique de Sony Pictures qui produit The Interview. La Corée du Nord a nié être à l'origine de l'attaque, mais a qualifié d'acte légitime de partisans et de sympathisants de Pyongyang. Les nouvelles menaces interviennent alors que des dizaines de milliers de Nord-Coréens ont rendu hommage ce mercredi à Kim Jong-il à l'occasion du 3e anniversaire de sa mort, après avoir dirigé le pays d'une main de fer pendant 17 ans. Et c'est son fils Kim Jong-un qui a pris la relève depuis.
Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur la Voix de l'Amérique. L'actualité économique en Afrique et ailleurs, la Minute Éco aujourd'hui avec Nicolas Pinault. Bonsoir Nicolas.
Bonsoir Chérubin.
Les chutes du cours du pétrole dans le monde se font déjà sentir au Nigeria.
Ewin Gossi Okonjo-Iweala, la ministre des Finances, a revu à la baisse les prévisions de croissance pour 2015 pour la première économie africaine. La croissance devrait atteindre 5,5% tout de même au lieu de 6,35%. Les dépenses publiques ont aussi été revues à la baisse.
Bonne nouvelle pour l'économie ivoirienne, le géant pétrolier Exxon va investir dans le pays.
Le groupe américain a signé deux contrats de partage de production avec la Côte d'Ivoire pour l'exploration et l'exploitation de deux blocs pétroliers en eau profonde. Environ 400 millions de dollars d'investissement sont prévus à partir de 2015. Cette annonce marque le retour d'ExxonMobil dans le bassin ivoirien 32 ans après sa sortie.
Marché agricole, la Banque mondiale prête 100 millions de dollars au Cameroun.
L'accord de financement contribuera au soutien des filières de maïs, manioc et sorgho durant les 5 prochaines années. Il permettra surtout à 120 000 petits producteurs camerounais d'approvisionner des groupes agro-industriels tels que Nestlé et Guinness.
Et parlons de la croissance de l'économie au Rwanda.
7,8%, c'est la croissance de l'économie rwandaise au troisième trimestre par rapport à l'année dernière à la même période, chiffre publié il y a quelques minutes par l'Institut rwandais de la statistique.
Voilà pour la Minute Éco de ce mercredi. Merci Nicolas Pinault.
Voilà, après l'économie, les sports avec Timothée Ndodambaye. Bonsoir Timothée.
Bonsoir Bagassi.
Alors, on reparle des sanctions contre le Maroc qui avait demandé le report de la CAN en raison de l'épidémie d'Ebola.
Eh oui, Bagassi, selon le journal algérien El Watan, la CAF pourrait se montrer plus clémente que prévu et n'infliger une suspension que de 2 ans au Maroc qui avait refusé d'accueillir la Coupe d'Afrique des Nations 2015 aux dates prévues. Ces sanctions ne devraient pas intervenir avant la fin du Mondial 2015.
Oui, ce Mondial 2015, le Mondial des clubs, justement, deuxième demi-finale ce soir au Maroc.
Les Argentins de San Lorenzo font face aux Néo-Zélandais d'Auckland City. Et dans le match pour la 5e place, Sydney et le Sétif s'affrontent donc pour cette 5e place.
Et le vainqueur qui rencontrera le Real en finale le samedi?
James Rodriguez, le milieu offensif colombien du Real, a participé à l'entraînement collectif ce mercredi au Maroc, au lendemain de la qualification du champion d'Europe pour la finale du Mondial des clubs.
Voilà, on parle de NBA pour terminer, championnat de basketball nord-américain.
Et oui, Bagassi, Memphis a infligé à Golden State sa première défaite en 17 matchs et en un plus d'un mois, en s'imposant 105-98 dans le match au sommet de la conférence Ouest. Autre résultat, New York-Dallas 87-107, Sacramento qui s'incline devant Oklahoma 92-104, Brooklyn s'incline également devant Miami 91-95, Et donc, on l'a dit, Memphis a battu Golden State 105 à 98. Et les Wizards de Washington ont défait Minnesota 109 à 95.
Voilà, merci Timothée.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Au studio 13 de la Voix de l'Amérique à Washington, Chérubin Dorcil et Bagassi Koura en votre compagnie pour cette édition du 17 décembre 2014. Les dossiers du jour, historique donc, que Bagassi, Washington et La Havane vont reprendre leurs relations diplomatiques avec l'ouverture prochaine d'ambassades dans les deux pays.
Et la question de la levée de l'embargo américain sur Cuba reste en suspens puisqu'il faudra l'aval du Congrès. Les discours de Barack Obama et de Raúl Castro, les deux présidents, ont été prononcés en simultané aux États-Unis et à Cuba. Pour une analyse, Nicolas Pinot a joint Maxime Larrivé. Il est chercheur en relations internationales à l'Université de Miami.
Today, the United States of America is changing its relationship with the people of Cuba. In the most significant changes in our policy in more than 50 years.
Prenant la parole ce mercredi à la Maison-Blanche, le chef de l'exécutif américain a rappelé que les mesures rigides prises à l'encontre de Cuba, depuis plus d'un demi-siècle, n'ont pas fondamentalement changé les réalités politiques sur l'île. L'embargo n'a tout simplement pas eu l'effet escompté et Barack Obama veut normaliser les relations américano-cubaines.
Oui, c'est ce que le président Barack Obama a dit d'ailleurs. Et l'analyste Maxime Larrivé, qui est chercheur en relations internationales à l'Université de Miami, a été interviewé par Nicolas Pinot. Elle a expliqué à quel point c'est un rapprochement historique. On y reviendra peut-être avant la fin de cette édition. Parlons maintenant de la fin à Dakar, ou plutôt de ce que les autorités de la Guinée ont décidé. Les autorités de la capitale guinéenne ont interdit l'utilisation des pétards et des feux d'artifice pendant les fêtes de fin d'année. Le gouverneur de Conakry a aussi déclaré qu'à cause de l'état d'urgence sanitaire, dû à Ebola bien sûr, Noël sera fêté dans les églises et dans les maisons. Nous écoutons le reportage de notre correspondant à Conakry, Zakaria Camara.
Boubacar, vendeur à la criée, tient quelques pétards et passe entre les véhicules devant Madina, le grand marché de Conakry.
Il y a certains qui vont penser que c'est pour les chrétiens seulement. Ce n'est pas pour les chrétiens. Avec les aides de Liberty Brand, c'est très joli.
Comme Boubacar, Ibrahim tente à chaque fois d'échapper à la vigilance des policiers. Des agents chargés de faire respecter l'interdiction d'utiliser les gadgets qui donnent des bruits assourdissants. C'est une décision du gouverneur de la ville de Conakry pour, dit-il, éviter des contaminations au virus Ebola. Mais pour l'abbé Mathieu Lois, les chrétiens doivent fêter Noël comme ils en ont le droit.
Ebola ou pas, Noël doit être fêté puisque c'est une grande fête. Et c'est vrai que nous allons fêter Noël dans un contexte un peu, j'allais dire, lamentable, avec des fièvres hémorragiques à virus Ebola. Mais quoi qu'on fasse, si nous avons la foi, c'est qu'on peut fêter Noël. Et dans la prière, dans le cœur, pour demander au Seigneur justement, l'enfant Jésus parmi nous, de nous aider à éradiquer ce mal.
Les autorités de la capitale ont maintenu la fermeture des plages. Les manifestations à haute intensité de rue dans les lieux publics sont suspendues. Noël sera fêté dans les églises et dans les familles, mais dans la sobriété, a précisé le gouverneur de la ville, qui semble trouver quelques défenseurs au niveau des jeunes.
Moi, la seule chance que je vois pour fêter Noël, c'est de fêter en famille.
Avec ce virus Ebola qui est en train de ravager la Guinée actuellement, on a fermé les plages. Je préfère rester en famille, fêter ça entre parents.
Fêter entre parents dans la sobriété à cause d'Ebola, l'argument ne semble pas convaincre Jean-Paul.
Si on veut la fêter en discrétion, on n'a qu'à dire maintenant, personne ne va à Madina. Ou bien personne ne monte en Mangbana. Personne ne monte en taxi. Parce que là-bas, il y a des frottements.
Conakry, Zakaria Camara pour La Voix de l'Amérique.
Lutte contre le virus Ebola. VOA Afrique se mobilise. Rejoignez-nous sur WhatsApp. C'est simple, ouvrez l'application smartphone WhatsApp et envoyez Ebola au numéro suivant 1 202 1-202-257-3583. Je répète, 1-202-257-3583. Vous recevrez des infos et des conseils de prévention contre le virus. Restez informés. VOA Afrique.
En RDC, un premier groupe de 120 ex-rebelles du mouvement du 23 mars a été rapatrié. Ils sont installés dans le camp de Kamina, dans la province au sud-est du Katanga. En même temps, l'armée ougandaise a annoncé qu'un millier de ces ex-rebelles se sont échappés du camp de Bihanga. C'est en Ouganda pour échapper donc à ce rapatriement que les dirigeants du M23 dénoncent comme étant forcés. Eddy Issango a parlé de la situation avec le coordonnateur congolais du mécanisme national de suivi des accords d'Addis Abeba, François Mwamba, qui a supervisé l'opération sur place à Entebbe.
Selon François Mwamba, la dispersion des ex-rebelles du M23 n'est qu'une manœuvre d'anciens rebelles du mouvement, puisque l'opération commencée est un rapatriement volontaire.
Il y a une tentative de manipulation de ces jeunes gens. Quand ils sont congolais, ils n'ont qu'une seule envie, c'est de retourner dans leur pays. Je ne dis pas le contraire. Je vous dis que parmi eux, il y en a 120 qui sont à Kamina. C'est vérifiable. Il y a, parmi les anciens dirigeants, des gens qui veulent ou qui voulaient garder en otage les combattants pour s'en servir comme fonds de commerce. Cette manœuvre-là a échoué.
Deux semaines plus tôt, l'Ouganda avait menacé d'accorder les statuts des réfugiés politiques à tous les 1678 ex-rebelles du M23 présents sur le territoire ougandais si Kinshasa n'entamait pas le processus de rapatriement des rebelles pour qui l'amnistie est une des conditions. François Mwamba indique que la question a été dissipée.
Pourquoi voulez-vous qu'on donne de l'amnistie à des gens qui en étaient pour la plupart de leurs dirigeants à la troisième demande, ayant bénéficié déjà à Sun City et en 2009 avec le CNDP? Ce sont les mêmes, les Makenga et les autres là. Ils en étaient à leur troisième demande d'amnistie. Hein? Le peuple congolais est un peuple stupide. Donc ça a pris du temps. Deuxièmement, on n'avait pas adopté la loi qui est sortie, puisque c'est une loi. La loi a refusé l'octroi d'amnistie en bloc, ce que vous appelez peut-être en anglais le bloc. Ça a été refusé. Ça a pris du temps. Oui, ça a pris du temps. Et ça justifie en ce moment-là que l'on puisse se comporter comme il se comporte. Ce n'est pas parce que ça a pris du temps qu'il faut tout d'un coup commencer à menacer la République démocratique du Congo. Le gouvernement dont vous parlez, Ougandais, l'a très bien compris. Je vous ai dit, je vous ai donné le nom. Je continue, il est là, le vice-ministre en relations internationales. C'est l'intérim du ministre des Affaires étrangères. Et là, nous nous sommes compris. On s'est expliqué. Qu'est-ce qui s'est passé de tout? Il ne s'est rien passé de tout. Pourquoi? Parce qu'on s'est compris.
Après l'Ouganda, ce sera le tour des ex-rebelles de ces mouvements réfugiés au Rwanda d'être rapatriés aussi.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, La Voix de l'Amérique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. Notez notre nouvelle adresse voafrique.com. Tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages, photos et vidéos, et vos commentaires sur voafrique.com. À tout de suite.
Et cette déclaration, laissez-moi souligner que je ne vais pas démissionner. Le président zambien par intérim, Guy Scott, répondait à ses ministres, dont la plupart exigent son départ, rapporte l'agence France Presse. Guy Scott assure l'intérim présidentiel depuis la mort fin octobre du président Michael Sata. Il est le premier chef d'État blanc d'Afrique subsaharienne depuis 20 ans. À en croire l'agence France-Presse, M. Scott est très impliqué dans les querelles qui déchirent le Front patriotique, le parti au pouvoir. Guy Scott considère la demande de sa démission avant les élections du 20 janvier 2015 comme un sérieux acte de trahison.
Et l'Afrique du Sud a mis 5 pays en compétition pour sa future commande de réacteurs nucléaires. Selon l'agence France-Presse, ce projet est controversé pour son coût, mais il est jugé nécessaire pour la sécurité et de l'approvisionnement électrique et pour réduire les émissions de carbone, a indiqué hier, donc mercredi, la présidence citée par l'AFP. Le pays qui a prévu d'acheter 6 à 8 nouveaux réacteurs a connu un nouvel épisode de coupure de courant tournante fin novembre. le plus sévère depuis 2008.
Et Bagasikoura, nous rappelons la principale nouvelle du jour, c'est ce rapprochement historique entre Washington et La Havane. Le président américain Barack Obama et son homologue cubain Raúl Castro ont confirmé ce que les observateurs considèrent comme un rapprochement historique entre les deux pays. Nous l'avons dit, cet important développement intervient après la libération d'un contractuel américain, Alan Gross, qui était détenu depuis 5 ans à La Havane. Les États-Unis ont également libéré des Cubains qui étaient emprisonnés ici aux États-Unis. Bientôt, ils ouvriront des ambassades dans la capitale américaine, Washington DC, et la capitale cubaine, La Havane. Le Conseil de sécurité de l'ONU a autorisé l'extension pour 1 an des livraisons d'aide humanitaire dans les zones contrôlées par les rebelles syriens sans le consentement du gouvernement de Bachar al-Assad. Une résolution adoptée aujourd'hui à l'unanimité prévoit 4 passages frontaliers pour ces livraisons en Turquie, en Irak et en Jordanie. Selon les Nations Unies, plus de 12 millions de Syriens ont besoin d'une assistance humanitaire à cause du conflit qui a déjà fait plus de 7,5 millions de déplacés. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique.
Alors donc, comme on le disait, on va revenir sur l'actualité du jour avec donc cette interview du professeur Larrivé, qui est un spécialiste des questions cubano-américaines. Il est basé à Miami, en Floride.
L'annonce, je pense qu'elle devait arriver un jour ou l'autre, mais c'est vrai qu'en tout cas, il y a eu un changement qui est apparu à partir de l'arrivée de président Obama, hein. Et à peu près en 2008, et puis c'est vrai qu'à partir de 2008 aussi, il y a un changement des relations entre l'Union européenne et Cuba. Et comme il l'a dit dans son discours au président Obama, les États-Unis sont les seuls à avoir un embargo avec Cuba quand la plupart des pays du monde ont des relations bilatérales avec Cuba. Donc du coup, c'est vrai que d'un point de vue domestique, l'arrivée de président Obama et de son équipe a peut-être amené à un changement des relations comme on l'a vu, mais aussi au niveau international où il y a eu un changement des relations entre, en tout cas, l'Union européenne, les 28 membres de l'Union européenne et Cuba. Donc ça, c'est vrai que les deux ont vraiment joué l'un et l'autre.
Et concernant l'embargo, qui est évidemment une sanction qui a été imposée depuis 1961 par les Américains, pensez-vous que le président Obama aura la majorité au Congrès pour pouvoir lever ces sanctions?
Ça, c'est très très dur hein, de prévoir, surtout avec l'arrivée du nouveau Congrès. Au printemps 2015. C'est pas sûr, hein, franchement, de voir ce qui se passe. C'est vrai qu'il y a eu quand même un accord au niveau du Comité des Affaires étrangères du Congrès, où il y a eu un accord bipartisan pour la libération de l'otage, enfin du prisonnier américain, et aussi, comme il parlait, de l'agent secret au Cuba, en échange des trois prisonniers en Floride. Donc c'est vrai qu'il y a eu un accord bipartisan, mais c'est pas forcément très sûr hein, quand on voit le sénateur de Floride, républicain Marco Rubio, qui lui, déjà, est très actif en essayant de limiter ou en essayant de vraiment critiquer la politique d'Obama. Et donc lui, il va sûrement monter en puissance et essayer de faire en sorte que le Congrès ne change pas sa position.
Le poids politique des Américains d'origine cubaine est-il toujours aussi important en Floride?
Il est extrêmement important, mais il est en train de changer. Il y a un changement au niveau des générations qui est en train de changer vraiment la vision des relations avec Cuba. Donc là, je regardais des sondages qui ont été faits cet été. 68% des personnes, donc cuba-américains, étaient en faveur de restaurer les relations diplomatiques avec Cuba. Au sein de ces 68%, donc les personnes qui étaient inscrites sur les listes électorales, donc principalement des personnes plus âgées, eux, ils étaient à 51% contre, en fait, la fin de l'embargo. Et 90%, par contre, eux, voulaient vraiment restaurer vraiment les relations diplomatiques. Et en tout cas, 71% disaient que l'embargo ne marchait pas ou en tout cas n'avait pas forcément des effets très positifs. Donc ça, c'était cet été 2014, fait à l'Université de Floride, par l'Université de Floride. Et puis on l'a bien vu hein, avec les dernières élections en Floride, que les Cubains américains ne votent plus forcément autant pour le Parti républicain qu'avant. Donc il y a vraiment un changement qui a lieu en Floride.
Voilà, c'était le professeur Maxime Larivé, chercheur en relations internationales, qui nous parlait de ce réchauffement des relations entre les États-Unis et Cuba.
C'est la fin de cette édition qui a été mise en onde par Lionel Gaïma avec l'assistance technique de Brian Marcoulier à la console technique. À la présentation,
Bagassi Koura et Chirubin Dorcel, on se retrouve dans quelques instants.